Bonjour, bienvenue dans l'atelier des médias. Impossible de démarrer cette émission sans rendre hommage à notre collègue Arnaud Dubus, ancien correspondant de RFI à Bangkok. On a appris lundi sa disparition à l'âge de 55 ans. C'était l'un des meilleurs connaisseurs de la Thaïlande, d'où il assurait pendant 30 ans avec passion la correspondance de RFI en français. En 2006, un de ses sujets portait sur la liberté de la presse en Thaïlande. La liberté de la presse, c'est le thème de notre émission cette semaine.
Le gouvernement de Thaksin s'est vite rendu compte que certains des journaux ne plieraient pas face à de simples menaces verbales. Il a donc rapidement recouru aux pressions économiques bien plus efficaces par le biais des budgets publicitaires. Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
L'atelier des médias, Steven Jambot.
En écho à la journée mondiale de la liberté de la presse qui se tenait le vendredi 3 mai, je reçois cette semaine dans l'atelier des médias la secrétaire générale du syndicat national des journalistes, Dominique Pradalier, pour parler des violences policières contre les journalistes en France dans les manifestations. Et puis avec Arnaud Froger, directeur Afrique de Reporters sans frontières, nous ferons un état des lieux de la liberté de la presse sur le continent africain.
Je suis journaliste. Vous me laissez bosser. Je suis journaliste. Baisse-toi. Baisse-toi. Je suis journaliste. Tu baisses ça. J'ai le droit. Oh, j'ai le droit d'être là. J'ai le droit de faire mon boulot.
Mépris, tutoiement, intimidation, menaces, insultes, tentatives de destruction ou saisie de matériel, effacement des cartes mémoire, coups de matraque, gazage volontaire et ciblé, tir tendu de lacrymogène, tir de lanceurs de balles de défense, jet de grenades de désencerclement, etc. En France, en 2019, des journalistes ont été victimes de violences de la part des forces de l'ordre. Pour en parler, je reçois Dominique Pradalier, secrétaire général du syndicat national des journalistes, premier syndicat de la profession. Bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Si je vous invite, c'est pour parler de ce sujet, des violences contre les journalistes. Selon l'association Reporters sans frontières, près de 90 journalistes ont été victimes de violences policières depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en France. Est-ce que c'est également le compte que vous avez pu mener ?
Écoutez, moi je m'appuie sur le compte de notre confrère David Dufresne, qui est un journaliste très sérieux, comme vous le savez, et qui, preuve à l'appui, a fait tous les signalements possibles et imaginables depuis que les journalistes sont devenus les cibles des forces de l'ordre, et lui arrive à 80. Alors ça, c'est sans compter toutes celles et ceux aux côtés desquels nous sommes dans les plaintes, et toutes celles et ceux qui nous ont contactés mais qui ne désirent pas poursuivre parce que dans la majorité des cas, ce sont des précaires.
Mercredi 1er mai à Paris, des journalistes ont encore été l'objet de violences quand ils n'ont pas été carrément pris pour cible de la part des forces de l'ordre. Comment analysez-vous cela ?
Eh bien, nous pensons, puisque nous avons déjà rencontré le ministre de l'Intérieur et que ça a été pire après, nous l'avons déjà alerté à plusieurs reprises depuis, nous pensons qu'on veut empêcher les journalistes de témoigner d'un mouvement qui a une ampleur et une longueur de temps inédite dans notre pays.
Le 1er mai au matin, justement, avant les manifestations, une tribune signée par plus de 350 journalistes était publiée sur le site de France Info avec cette phrase forte « Nous assistons à une volonté délibérée de nous empêcher de travailler » et enchaînée sur « Nous constatons qu'au fil de l'intensification du mouvement social et de ses violences, notre travail est devenu de plus en plus risqué, difficile, voire impossible. C'est du fait largement du comportement des forces de l'ordre elles-mêmes ». Comment est-ce que cela se fait ? Comment
écoutez,
est-ce qu'on a pu en arriver là ?
C'est affolant, c'est inquiétant, c'est grave et c'est parfaitement antidémocratique. Quand un journaliste entend un policier vouloir saisir sa caméra en affirmant que c'est une arme par destination, ce qui est arrivé à notre confrère et ami, on se dit, il y a quelque chose qui va très très mal dans ce pays. Les lois constitutionnelles nous disent qu'on a le droit d'informer et d'être informé. Bon, il y a une impunité totale depuis des semaines, une impunité totale de tous les agresseurs de journalistes côté force de l'ordre. Pour le seul cabinet parisien que nous connaissons, il y a plus de 34 dossiers pour
c'est
ce seul cabinet. Ah, c'est affolant. Et quand on pense que la France a été sévèrement mise en garde par l'ONU, par les puissances européennes, par le défenseur des droits, on se dit, mais où va ce pays, où va ce ministre ?
Et
les trois questions
boulot,
qu'on pose
justement.
Sont qui donne les ordres, qui couvre toutes ces entraves graves à la liberté de la presse et quelles suites sont données aucune réponse à ces trois questions.
On observe une défiance plus forte que jamais envers les journalistes et les médias en France. Et avec d'autres organisations, vous appelez les journalistes français à se rassembler le 16 mai prochain afin de lancer les bases d'une instance nationale de déontologie. Pourquoi ?
Alors c'est une vieille revendication du Syndicat national des journalistes de dire qu'il faut une instance indépendante, vraiment indépendante, qui puisse se saisir de dysfonctionnements, être saisie par des citoyens, faire une enquête, émettre un avis destiné à être rendu public dans le ou les médias concernés. Et quand nous parlons d'instance indépendante, c'est pour souligner que le CSA ne l'est pas du tout. Le CSA, dont je vous rappelle, Conseil supérieur de l'audiovisuel, les 9 membres sont nommés par les pouvoirs politiques. Donc ce n'est pas du tout une instance indépendante. Donc nous voulons une instance indépendante qui serait paritaire, journaliste, éditeur, bien évidemment avec des représentants de la société civile. Et je vous rappelle que ce type d'instance existe dans une vingtaine de pays européens.
En Belgique, en Suisse.
Notamment, absolument, qui font un travail formidable et qui permettent aux citoyens de comprendre qu'on prend en compte leurs requêtes, leurs plaintes, leur étonnement, leur condamnation.
L'idée, c'est d'aller plus loin que la charte des devoirs des journalistes qui date de 1918, d'organiser la profession et de la faire s'auto-contrôler.
Bien évidemment, c'est à la profession de s'auto-contrôler. Mais les employeurs ne veulent pas de ces chartes. Ils veulent rester maîtres de leur petite manipulation. Deuxième point dont nous exigeons qu'ils viennent à maturation dans les esprits, c'est la reconnaissance juridique d'une équipe rédactionnelle dans chaque entreprise de presse. Pourquoi ? Parce que, initiateur de ce statut exceptionnel, le SNJ a notamment fait acter la clause de conscience. C'est une clause individuelle qui est remarquable, qui permet aux journalistes de quitter l'entreprise en disant « ma conscience m'interdit de continuer ». Sauf que maintenant, face aux très grands groupes qui possèdent les médias, elle est insuffisante. Il faut une clause de conscience collective de l'équipe rédactionnelle qui représente l'âme du journal, de l'entreprise de presse, de la radio, etc. Si les journalistes qui ont fait une merveilleuse grève à iTélé, 31 jours de grève, pour l'honneur, je vous le rappelle, d'honneur professionnel, bien sûr. Si ces journalistes avaient été membres d'une société reconnue légalement, je pense qu'ils auraient été beaucoup aidés dans leur combat.
David Dufresne, aux Assises du journalisme, où il a, vous le citiez tout à l'heure, il a reçu un prix justement pour son travail de recensement des violences policières dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Il disait aux journalistes « faites votre boulot, merde ». Avez-vous l'impression que les journalistes font mieux leur boulot sur les violences policières depuis quelques semaines ?
Oui et non. Et quand nous parlons des journalistes, il faudrait voir de qui on parle. Si on parle des journalistes de terrain, globalement, ils ont plutôt bien fait leur travail de bout en bout. Si on parle des hiérarchies journalistiques qui sont rarement mises en cause, mais qui donnent le là et qui commandent, c'est une autre affaire. Parce qu'on montre toujours du doigt le journaliste, mais on ne montre pas toute sa hiérarchie. Or, toutes les erreurs qui passent à l'antenne ne devrait jamais exister, puisque le journaliste a au-dessus de lui un chef de service, un rédacteur en chef, un directeur et toute une pléthore hiérarchique très utile quand ils font bien leur travail, mais très dure quand ils pèsent sur le journaliste.
Merci Dominique Pradelier.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Syndicat National des Journalistes, le SNJ. Et j'invite nos auditeurs à réécouter l'immense travail de Ziad Mahalouf et de son équipe sur ce sujet des violences contre les journalistes en France. Les 8 et 14 juillet 2017, ils consacraient déjà 2 émissions d'1 heure à ce sujet. Vous pouvez les retrouver en réécoute sur atelier.rfi.fr.
Et en fait, alors que je parle pas, ils me disent à plusieurs reprises « ferme ta gueule, ferme bien ta gueule », machin. Bref. Là-dessus, donc ils me rendent mon téléphone en ayant compris qu'il n'y avait plus les images en question. Et ils me demandent d'allumer mon appareil photo. Et ils veulent regarder mes photos. Ils commencent à regarder les photos et il se trouve que la première photo qu'ils voient, c'est une photo en fait de cette équipe-là en train de tirer. Et donc là, voyant ça, ils se retournent vers moi. Ils me demandent si je me fous de sa gueule. Enfin, ils me disent « tu te fous de ma gueule, c'est quoi cette photo ?» Tout ça. Et je leur explique que je veux bien l'effacer. Ils m'attrapent à l'épaule. Ils me frappent très violemment au visage avec mon propre boîtier. Donc j'ai eu ensuite une blessure sur la lèvre, dans la bouche et au niveau de la cloison nasale. J'ai eu 3 jours d'ITT à la suite de cette blessure. Et une fois qu'il m'a mis ce coup et donc que je suis au sol avec, avec un début de coup de sang dans la bouche, il ouvre le clapet de carte mémoire, il prend ma carte mémoire, il me jette mon appareil photo sur moi, il me rend mon sac à dos et il me dit « vas-y maintenant casse-toi et si on te revoit ». Il m'explique que tous ses collègues m'ont identifié, donc que si pour le coup il me revoit sur le dispositif, là je vais vraiment avoir des soucis.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Arnaud Froger.
Bonjour.
Vous êtes le directeur Afrique de l'association Reporters sans frontières et vous êtes avec nous par téléphone depuis Addis Abeba en Éthiopie où se tient un événement pour la Journée mondiale de la liberté de la presse à l'initiative de l'UNESCO. Alors je vais reprendre les termes employés par RSF. L'Afrique enregistre la plus faible dégradation régionale de l'édition 2019 du classement, mais aussi certaines des plus fortes évolutions de l'année écoulée. Alors on va y revenir, mais pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, pouvez-vous nous rappeler brièvement sur quels critères RSF établit son classement ? Concrètement, comment travaillez-vous ?
Reporters sans frontières établit ce classement mondial de la liberté de la presse depuis 2002, donc c'est un classement qui a une certaine ancienneté et maintenant une certaine notoriété. Nous évaluons tous les aspects de la liberté de la presse à travers sept critères. Il y a l'indépendance, par exemple, le pluralisme des médias, le degré d'autocensure, le niveau d'exaction qui est commis contre les journalistes et les médias dans les pays. Bref, sept critères qui couvrent tous les aspects de la liberté de la presse et qui font l'objet d'une évaluation auprès d'experts que nous identifions dans chaque pays et qui répondent à un questionnaire très exhaustif. Nous compilons les données, nous établissons une note, nous confrontons cette note ensuite avec notre propre analyse et notre propre expertise et nous établissons donc chaque année le classement mondial de la liberté de la presse qui classe les pays de 1 à 180.
Très bien, alors j'aimerais pour commencer qu'on s'intéresse à quelques pays africains qui font l'actualité de ces derniers jours ou ces dernières semaines. Parlons tout d'abord du Bénin où se sont tenues des élections législatives dimanche et où la tension règne. Alors le Bénin a perdu 12 places dans le classement 2019 de RSF, passant de la 84e à la 96e place. C'est un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest où il y a un pluralisme médiatique, 70 radios, une soixantaine de titres de presse, une quinzaine de chaînes de télévision. Ce pluralisme, ces derniers jours, avez-vous l'impression qu'il est en danger ? Avez-vous des remontées du terrain qui pourraient vous laisser penser cela ?
Et il est en danger non seulement ces derniers jours, mais il est en danger depuis plusieurs années en fait. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président Patrice Talon, on constate année après année un recul de la liberté de la presse au Bénin qui se caractérise de plusieurs manières. On a des suspensions de médias. L'année dernière, un grand journal proche de l'opposition qui s'appelle La Nouvelle Tribune a été suspendu sans durée de fin d'ailleurs de suspension de manière complètement arbitraire. Il arrive également que des journalistes sont intimidés. Il y a également une tentative de museler le débat public. Il y a un service de communication qui envoie des notes de cadrage aux rédactions pour leur donner des angles, des façons de traiter les sujets d'actualité. Donc il y a une volonté de faire taire les critiques qui peuvent être émises par la presse au Bénin depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Et j'ajoute que il y a également, on note une faible présence des représentants de l'opposition sur les médias publics. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'une grande chaîne de télévision qui appartient au principal adversaire politique du président est toujours fermée, et ce malgré une décision de justice qui avait ordonné sa réouverture il y a de ça quasiment 2 ans.
Dans votre rapport, vous écrivez « Continent des contrastes, l'Afrique est aussi celui de la continuité du côté du pire », avec la République démocratique du Congo qui se maintient à la 154e place. C'est le pays où RSF a enregistré le plus d'exactions en 2018. Expliquez-nous.
Oui, pour la deuxième année consécutive, effectivement, la RDC reste le pays d'Afrique subsaharienne où Reporters sans frontières a enregistré le plus d'exactions, environ 120 exactions l'année dernière. Le spectre est très large, hein, ça va de l'intimidation, de l'agression aux arrestations arbitraires, en passant par la suspension de médias. Il y a des journalistes d'investigation qui ont été contraints de fuir leur domicile après une enquête sur l'ex-président Joseph Kabila. Ce que l'on espère maintenant, c'est qu'encore une fois, à la faveur du changement de pouvoir, alors même si c'est un changement de pouvoir avec des alliances de circonstances, on espère que le nouveau président, Félix Tshisekedi, se démarquera de son prédécesseur en faisant de la liberté de la presse un pilier du développement démocratique au Congo. Et c'est une réponse aussi à son électorat en RDC. Il doit faire de la presse un des piliers du pays parce que c'est un pays dans lequel les médias sont très nombreux, les journalistes sont très nombreux, mais c'est aussi un pays dans lequel les exactions sont également très nombreuses. Le premier pas pour ça, c'est encore une fois de réformer le cadre légal. La base sur laquelle se fonde l'exercice du métier de journaliste en RDC est très mauvaise. C'est un texte qui date de 1996, qui avait été signé de la main du maréchal Mobutu et qui était extrêmement répressif, qui prévoit des peines extrêmement sévères. Et si cette base-là, légale, n'est pas réformée, l'instrument juridique qui sert à réprimer les journalistes restera aux mains du pouvoir. Et évidemment, ce n'est pas ce que souhaitent les Congolais, ce n'est pas ce que souhaite RSF. Et nous attendons le président Félix Tshisekedi à agir rapidement dans ce sens-là.
Pour réprimer les journalistes, ou en tout cas les empêcher de s'exprimer, à une époque, eh bien, on saisissait une imprimerie, on fermait un journal administrativement. Maintenant, on peut plus globalement empêcher tous les producteurs d'informations de s'exprimer, notamment en coupant Internet. C'est quelque chose que l'on voit dans plusieurs pays. On voit ça au Togo, on a vu ça aussi au Bénin dimanche dernier. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi avez remarqué et dénoncé ?
Oui, c'est une tendance très lourde et c'est effectivement une tendance très inquiétante dont l'Afrique s'est fait une petite spécificité. Au cours des 5 dernières années, environ la moitié des 48 pays d'Afrique subsaharienne y ont eu recours. Et ce qu'on note, c'est que sur ces pays qui ont eu recours au cours de ces 5 dernières années, vous en avez cité quelques-uns, on pourrait citer le Zimbabwe, la RDC y a eu recours, le Cameroun est un champion dans cet exercice. Et bien, ce qu'on note, c'est que sur les pays qui ont eu recours, il y a effectivement 80% ces pays qui étaient dirigés par des hommes politiques qui étaient au pouvoir depuis plus de 13 ans. Donc il y a un vrai lien de corrélation entre l'autoritarisme d'un régime et le recours à ce type de méthode pour censurer la liberté de circulation d'informations sur Internet. C'est évidemment contraire au droit international et c'est un outil qui apparaît de toute façon complètement anachronique désormais. Il y a une multitude de possibilités de pouvoir s'informer et couper Internet n'empêche pas les citoyens de pouvoir détourner ces coupures et de pouvoir s'informer. C'est une méthode qui est à la fois liberticide, complètement anachronique et inadaptée.
Merci Arnaud Froger.
Je vous en prie.
J'en profite pour informer nos auditeurs qu'une place portant les noms de Ghislaine Dupont, Claude Verlon et Camille Lepage a été inaugurée vendredi 3 mai dans le 2e arrondissement de Paris. Ghislaine Dupont était grand reporter à RFI, Claude Verlon était technicien de reportage à RFI. Tous deux ont été assassinés à Kidal au Mali le 2 novembre 2013. Quant à Camille Lepage, elle était photojournaliste indépendante. Elle a été assassinée en Centrafrique le 12 mai 2014. Tous les trois sont morts dans l'exercice de leurs fonctions et pour la liberté d'informer.
Mondoblog.org.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui parle cette semaine de la liberté d'expression à Madagascar. Tiassoa Ratsirane, dite Tiazi, a écrit un billet au titre éloquent « Liberté d'expression, paix à ton âme ».
Au XXIe siècle, je vis dans un pays où dire ce que l'on pense est devenu un crime. Ce pays, c'est Madagascar. Que dire ? Liberté d'expression, paix à ton âme. En 2016, le gouvernement a décidé d'adopter un nouveau code de la communication. Un horrible code, si je peux me permettre. Un code qui entrave la liberté d'expression sur tous les plans. C'est simple, plus personne ne peut plus rien dire. Journalistes, blogueurs, utilisateurs des réseaux sociaux. Ce code fait en sorte que toute personne qui souhaite s'exprimer hésite vraiment à le faire. C'est devenu une véritable psychose. Nous ne pourrons plus nous plaindre. Nous ne pourrons plus exprimer des idées contraires à ce que veulent certaines entités. La psychose est devenue tellement grande que même faire un statut politique sur Facebook terrifie les internautes. Adieu la critique, adieu la parodie, vous êtes devenu un crime. Cela me laisse un goût amer dans la bouche car, en tant que journaliste, je croyais à la lutte pour la liberté d'expression, la lutte pour la liberté de la presse. C'est presque les deux seules choses auxquelles je croyais, tellement mon pays est dévasté. Mais bon, je vais creuser une tombe et organiser les funérailles de notre si chère liberté d'expression.
C'était Tiazi, que vous pouvez retrouver sur son blog Tiazi Raconte. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les Mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin, Camille Deloche et Léo Caravagna. À la réalisation, Simon Decreuse, au micro, Steven Jambeau. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. Notre émission portera sur le fact-checking pendant les élections européennes. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.